La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices et bienvenue dans cette émission La prédication protestante. Je suis Thierry Rouquet, le pasteur de l'église protestante baptiste de Toulouse. Et pour ce dimanche 7 mai, je vous propose un texte pour notre méditation qui se trouve dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours. Alors ce court verset nous parle de la joie et je dirais de la reconnaissance aussi finalement. La joie est un thème important dans cette épître aux Philippiens et pour l'apôtre Paul, ce mot est quasi synonyme de reconnaissance. Chez l'apôtre Paul, cette joie est simplement la manifestation, l'expression de la reconnaissance qu'il a pour son Dieu et tout particulièrement pour le Christ, celui qui s'est révélé à lui sur la route de Damas. Cette pensée est exprimée à plusieurs reprises d'ailleurs tout au long de cette lettre envoyée aux chrétiens de la ville de Philippe. On la retrouve au chapitre 1, Christ est annoncé, « Je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore plus loin aussi, même si je dois être répandu comme une libation, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » Plus loin au chapitre 3, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Au chapitre 4, idem, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur. Alors cette insistance de l'apôtre est d'autant plus étonnante que au moment où l'apôtre Paul écrit cette missive, cette lettre, ses conditions de vie sont assez terribles. N'oublions pas que Paul est prisonnier dans les géoles romaines. Du coup, on peut se poser cette question, mais où puise-t-il cette foi? Qu'est-ce qui peut motiver l'apôtre à ce point? Comment fait-il? Je pense que l'apôtre se ressource dans son être intérieur, dans la reconnaissance de tout ce qu'il doit au Seigneur Jésus-Christ, qui lui a donné tout ce qu'il a reçu à ce jour. Tout ce qu'il lui donne chaque jour est pour l'apôtre Paul une source de joie et une occasion de manifester sa reconnaissance. Il voit dans les moindres choses la grâce de Dieu à l'œuvre. Mais il n'y a pas que l'amour qu'il porte au Christ qui lui donne matière à se réjouir. En effet, dans cette lettre, on apprend que les chrétiens de cette ville de Philippe ont pourvu à ses besoins au moment où il en avait la nécessité la plus impérieuse. Paul alors trouve l'occasion d'exprimer sa reconnaissance en réponse à l'aide matérielle que les chrétiens de Philippe, de l'église de Philippe, lui ont apportée dans sa prison. Il le dit lui-même d'ailleurs, « J'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'œuvre, l'apôtre que vous m'aviez envoyé en le chargeant de pourvoir à mes besoins. » Et donc on peut comprendre aussi la raison de cette joie exprimée par l'apôtre Paul. Il faut aussi savoir qu'à cette époque, c'était la famille ou les amis qui aidaient les prisonniers. D'où le ton chaleureux de cette lettre aux Philippiens. Il ne faut pas négliger l'encouragement que peuvent apporter tous les gestes de bienveillance que nous manifestons. Tout apôtre qu'il était, Paul avait aussi besoin de se sentir soutenu, qui plus est dans ces circonstances particulièrement difficiles. Effectivement, quand nous joignons le geste à la parole, nous suscitons la joie et la reconnaissance pour les personnes que nous aidons. Et c'est ainsi que Paul exprime sa reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est le texte que nous avons lu au début de notre méditation. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais que veut dire se réjouir dans le Seigneur? Se réjouir dans le Seigneur suppose que nous croyons que seul le Christ et la vie qu'il nous communique par le Saint-Esprit peut réellement combler notre besoin de satisfaction. L'être humain vient à l'existence avec des besoins vitaux. Besoin d'être nourri, besoin d'être protégé, d'être soigné, d'être aimé, d'être entouré chaleureusement. Mais ces besoins-là que les hommes peuvent donner ne comblent jamais totalement ces besoins. D'ailleurs, des épreuves peuvent surgir, la solitude, des drames personnels et familiaux, des catastrophes, des maladies, des déceptions amoureuses ou trahisons, bref, beaucoup de souffrances sont le lot de l'humanité sur cette terre. D'autre part, il y a un besoin fondamental au cœur de chaque être humain que personne ne peut combler. C'est celui de connaître Dieu, de le rencontrer, pour trouver enfin le seul amour qui peut rassasier notre faim, désaltérer notre soif profonde. En effet, il y a au cœur de chaque être humain ce besoin, besoin qu'a très bien exprimé saint Augustin dans son livre « Dans les confessions ». Il dit ceci, « Tu nous as fait pour toi, » il s'adresse à Dieu, « Tu nous as fait pour toi et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. » C'est bien l'expérience partagée aussi par cette femme dans la Bible, appelée d'ailleurs péjorativement la Samaritaine, comme si on lui refusait toute existence personnelle en la réduisant à sa communauté méprisée d'ailleurs. En effet, il nous est dit qu'elle allait au puits pour y puiser de l'eau et Jésus, s'adressant à elle, lui dit « Donne-moi à boire ». Jésus continue en lui disant « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alors, cette femme réplique « Mais Seigneur, tu n'as pas de seau et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Serais-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a lui-même bu de son eau ainsi que ses fils et ses troupeaux? Alors Jésus lui répond, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et la femme donc de lui répondre, « Seigneur, mais donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » L'espérance chrétienne est fondée sur un événement historique majeur et absolument déterminant pour l'histoire de l'humanité. Et cette histoire de cette rencontre entre Jésus et cette Samaritaine nous montre justement comment Jésus peut combler notre soif. La venue de Jésus, le Verbe fait chair, suivi de la venue de son esprit au jour de la Pentecôte, eh bien, inaugure les temps nouveaux du salut et la manifestation éclatante de la grâce de Dieu, celle qui nous donne à boire cette eau qui nous désaltère pleinement. La réponse de Jésus à cette femme le dit clairement, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi-même qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » Le chrétien ne vit pas d'une espérance en des lendemains qui chantent et qui peuvent le laisser dans la désespérance. Pour le chrétien, le chant de la victoire est là, dans le don de Dieu, comme Jésus l'a dit à cette femme samaritaine. « Si tu connaissais le don de Dieu. » Le don de Dieu, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. En cette vie si dure et si fragile, la seule espérance qui ne trompe pas est celle que nous promet Jésus. Toute personne, comme il l'a dit à cette femme, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors oui, cette espérance nous remplit de joie et de reconnaissance. Alors comme l'apôtre Paul, nous pouvons nous aussi nous réjouir en toute occasion, favorable ou non, y compris dans les situations où se trouvait l'apôtre Paul, dans une situation d'enfermement, sans aller jusqu'à un enfermement physique, mais il y a des temps et des moments, des situations dans nos vies où nous nous sentons comme enfermés, prisonniers, sans solution, comme dans un tunnel. Alors, c'est là que notre espérance peut nous remplir de joie, de reconnaissance et nous permettre de voir la lumière, sa lumière. Parce que cette espérance n'a rien d'une illusion. Elle ne se résume pas non plus à une place au ciel, parce que le croyant possède dès maintenant l'assurance d'être entendu, d'être aimé, adopté par un père bienveillant qui lui a donné un ami fidèle en son fils. Oui, le croyant possède dès maintenant une espérance en ce monde. Il sait qu'on ne peut espérer en étant pleinement satisfait sans connaître Jésus, le Christ. Les satisfactions et les joies de ce monde sont impuissantes face à ce besoin qui est au cœur de l'homme, car l'espérance recherchée dans les plaisirs mondains se caractérise par l'attente de ce qui n'adviendra jamais. Et cette espérance, cette fausse espérance du monde, elle est donc terriblement frustrante, illusoire. La Bible caractérise cette espérance toujours décevante comme étant l'esprit de ce monde. Dans cette dimension d'un éternel accomplissement retardé, il est donc logique de vivre en permanence dans l'insatisfaction et par voie de conséquence dans la non-reconnaissance. Pourtant, il y a dans le cœur de l'homme cette soif, cette aspiration qui peut trouver en Dieu son aboutissement. Comme saint Augustin l'a dit dans ses confessions, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, c'est-à-dire sans satisfaction, tant qu'il ne demeure en toi. » Alors oui, nous aussi, disons comme la Samaritaine, « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Malheureusement, l'insatisfaction est aussi attisée, stimulée, nourrie par une forme d'idolâtrie dans ce monde, idolâtrie à l'œuvre dans nos sociétés modernes. Le matérialisme, le scientisme, le technicisme peuvent être des voies d'égarement, nous faisant croire que l'homme est suffisant, qu'il est un Dieu tout-puissant. Dans l'exhortation de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens de Philippe, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », il s'exprime avec un verbe à l'impératif présent, comme s'il disait « Sans cesse vivez dans cette joie spirituelle qui vous habite depuis que vous le connaissez, depuis que vous l'avez rencontré, et ne vous laissez pas voler cette joie, restez dans la reconnaissance continuelle de ce que le Seigneur a fait pour vous. » En fait, cette joie est un état qui caractérise le chrétien, qui trouve toute sa joie dans la vie que Jésus-Christ partage avec lui chaque jour. Pour cette raison, le ciel promis par Jésus n'est pas une fuite ou un substitut à ce monde. C'est une réalité vécue dans la joie dès ici-bas pour chaque croyant. Le ciel n'est pas un lieu utopique pour oublier les malheurs terrestres, mais la reconnaissance éternelle pour tout l'amour, la paix et la joie qu'accorde le Seigneur. Dans cette période où nous allons fêter dans quelque temps l'ascension, cette période où les apôtres ont vécu avec le Christ, avec lui dans sa vie de ressuscité, Jésus près d'eux, nous aussi, nous pouvons expérimenter cette parole de Jésus qui, avant de partir au ciel, a dit à ses apôtres, « réjouissez-vous, réjouissez-vous. » Il les a enseignés dans le royaume de Dieu. Alors, quand il s'est élevé, un ange est apparu aux apôtres pour leur dire, « ne restez pas là, Béa, mais allez, allez. » Et recevez ma joie, recevez cette espérance qui vous donnera cette reconnaissance éternelle pour tout l'amour et la paix et la joie que vous accorde le Seigneur. C'est bien la reconnaissance et la joie qui orientent et qui doit motiver la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne est toujours une réponse à une parole que Dieu nous a adressée, une parole qui nous a précédés. C'est ainsi que Dieu s'exprime dans le livre de l'Exode. « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. » Et alors, suite à cette parole adressée au peuple de Dieu, cette parole de grâce, viennent les commandements que le peuple d'Israël était tenu d'observer. Alors nous comprenons que la reconnaissance et la joie sont forcément une réponse à cette grâce que Dieu nous a communiquée en son Fils Jésus-Christ. La reconnaissance et la joie sont liées donc à l'adoration. Et d'ailleurs, dans la piété juive, la reconnaissance et la joie étaient une marque distinctive dans la piété. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 4, « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Avec action de grâce. Nous voyons aussi dans cet événement, dans l'évangile de Luc, où Jésus guérit 10 lépreux, un lépreux revient remercier le Seigneur pour sa guérison. Le texte nous dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. En réponse à cette parole de Dieu qui nous a appelés à lui, nous lui manifestons donc notre foi, notre reconnaissance, cette réponse à cette parole de l'Évangile qui nous a attirés à lui. Notre joie, notre reconnaissance sont certes des échos imparfaits, mais une réponse à l'amour premier de Dieu à notre égard. Comme le dit l'apôtre Jean dans son épître, dans sa première épître, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Notre reconnaissance est donc une réponse, un écho à cet amour premier. Le sacrifice de louange offert à Dieu commence par le rappel du sacrifice premier, fondateur de Jésus. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riche. Notre sacrifice de louange est toujours une réponse à Dieu. Il est second, il est une expression d'une reconnaissance à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Notre sacrifice à nous ne sera toujours qu'un écho imparfait à la voix de celui qui a dit « Tout est accompli ». Notre reconnaissance exprime notre totale dépendance à la gratuité de Dieu. Une reconnaissance qui exprime la grâce exclusive de Dieu. Notre reconnaissance ne peut acheter Dieu puisque notre vie a déjà été rachetée. Notre sacrifice de louange sera toujours une réponse à la grâce divine. La puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé un appel, cet appel nous a été adressé non pas parce que nous aurions fait quoi que ce soit au préalable, mais selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ, avant l'état éternel, avant les temps éternels. Cette grâce qui s'est maintenant manifestée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est pour cet évangile que l'apôtre Paul a été institué héros, apôtre et maître, comme il le dit lui-même dans sa deuxième épître à Timothée. Et il dit lui-même que c'est aussi pour cette raison-là qu'il est capable d'endurer ses souffrances. En conclusion, que notre joie et notre reconnaissance soient à l'exemple de ce que Marie a pu exprimer dans ce Magnificat, dans l'évangile de Luc. Et Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Voilà donc la reconnaissance que Marie exprime dans ce Magnificat, et on voit que cette reconnaissance lui apporte une joie immense. Alors que nous puissions, à sa suite, eh bien, exprimer nous aussi notre reconnaissance et notre joie à notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, notre Maître, celui qui nous a montré la voie en se réjouissant de ce que Dieu faisait dans sa vie. Amen.
Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence, merci Seigneur. Pour ta lumière brillante dans nos vies, éclair qui chasse la nuit, merci Seigneur. Merci ô Père, merci ô Fils, merci ô Saint-Esprit, ô trois fois saint. Merci Seigneur. Merci Seigneur.